Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, l'ONU s'inquiète de l'enlisement de la crise sociopolitique en Haïti. L'Assemblée générale examine le rapport du Conseil des droits de l'homme. À la veille de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l'UNESCO note que 90% des assassinats de journalistes restent impunis. En dossier, nous revenons sur l'épidémie d'Ebola en RDC. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a fait part de son inquiétude concernant la situation sociopolitique à Haïti et à l'enlisement d'une crise dans un contexte de vastes mouvements de protestation dans le pays. Le Bureau est prêt à appuyer les efforts visant à trouver une solution à la situation actuelle et à alléger les souffrances du peuple haïtien. On écoute son porte-parole à Genève, Marta Hurtado.
Au moins 42 personnes sont mortes et 86 ont été blessées à Haïti à la suite de l'escalade des tensions depuis le début de la dernière vague de manifestations le 15 septembre, selon des informations vérifiées par notre bureau. La grande majorité des victimes ont été blessées par balles. Les rapports indiquent que les forces de sécurité sont responsables de 19 sur la quarantaine de décès, tandis que les autres ont été tués par des individus armés ou des auteurs inconnus. Parmi les personnes tuées figurait au moins un journaliste, 9 autres journalistes ont été blessés et beaucoup auraient été menacés. Nous exhortons tous les acteurs à s'abstenir de cibler les journalistes et à respecter la liberté des médias de rendre compte de la situation. Depuis le début de l'année scolaire, en septembre, la plupart des enfants haïtiens n'ont pas pu aller à l'école.
L'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie vendredi pour débattre du rapport du Conseil des droits de l'homme. L'occasion pour le président de l'Assemblée générale, Tijani Mohamed Bande, de réitérer l'importance des droits de l'homme pour assurer la paix et le développement dans le monde. Pascal Sim nous en dit plus.
Le président de l'Assemblée générale a rappelé aux États membres de l'ONU qu'ils se sont mis d'accord, il y a 7 décennies, sur un ensemble de droits inaliénables, des droits qui garantissent la dignité de chacun, partout dans le monde, prouvant que nous avons plus en commun que ce qui nous divise, a dit Tijani Mohamed Bande. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies s'emploie à concrétiser cette vision commune d'un monde meilleur en tant qu'élément fondamental du système des droits de l'homme, a-t-il dit. À cet égard, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un document déterminant qui établit des normes pour tous les peuples et toutes les nations. Nous ne pouvons assurer la paix et le développement que si les droits de l'homme sont respectés, a souligné le président, qui a encouragé les États membres à considérer tous les objectifs de développement durable dans l'optique des droits de l'homme. Pour atteindre ces 17 objectifs, nous devons nous assurer que toutes les parties prenantes sont incluses tout au long de notre travail, de manière à ne laisser personne de côté, a insisté Tijani Mohamed Bande, précisant qu'il a fait de l'inclusion une priorité de la 74e session de l'Assemblée générale.
Près de 90% des responsables des assassinats des plus de 1100 journalistes dans le monde entre 2006 et 2018 n'ont pas été châtiés. C'est ce que note le nouveau rapport de l'UNESCO publié à la veille de la 5e édition de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, commémorée le 2 novembre. Pour la rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires et sommaires qui a enquêté sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, il faudrait créer un mécanisme de réponse rapide pour mettre un terme à cette impunité. On écoute Agnès Calamar.
Quand on commence à comprendre les raisons d'être de l'impunité, qui sont des enquêtes bâclées, mal faites, faites sous pression politique, etc., quand on comprend que ce sont ces dynamismes-là qui aboutissent à l'absence de procès ou des procès sans verdict, il faut s'attaquer à ce qui se passe la première semaine. C'est pour ça que dans mes recommandations pour le crime de M. Jamal Khashoggi, j'ai voulu mettre en place cette task force des procédures spéciales pour des missions d'intervention rapide qui nous permettrait en 24 ou 48 heures soit de rencontrer les missions ici pour essayer de mettre en place et de signaler dès le départ notre intention d'être présente sur le dossier et de surveiller le dossier de près, ou dans les meilleures situations possibles, d'aller sur le terrain pour rencontrer les politiques et ceux qui vont faire l'enquête afin de, dès le départ, de donner cette impulsion qui permettrait à l'enquête de porter ses fruits.
L'UNESCO a également organisé une exposition des œuvres de 17 dessinateurs de presse intitulée « Dessiner pour ne pas tirer un trait ». Un hommage à la mémoire des journalistes français qui sont à l'origine de la date de la journée, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés au Mali le 2 novembre 2013. Marie-Solange Poinceau, la mère de Ghislaine Dupont, était présente au vernissage au siège de l'ONU, l'occasion de la recevoir dans nos studios. Madame Poinceau a lancé ce message.
Cet anniversaire devrait porter ses fruits pour nous, mais pour le monde entier, pour tous ces pays où tant de journalistes laissent leur vie alors qu'ils sont là pour nous tenir au courant du vrai. Parce que les journalistes qui vont en Afrique ou qui vont dans n'importe quel pays du monde où il y a la guerre, ils rapportent ce que je disais à ma fille, la vérité vraie.
Alors que la réduction des cas de contamination à virus Ebola continue à être observée en République démocratique du Congo, le nouveau coordonnateur adjoint des Nations Unies pour la réponse d'urgence contre la maladie, Abdou Dieng, a entamé cette semaine une mission en Ituri, région où sévit le virus. On écoute Abdou Dieng au micro d'Isaac Rémo de Radio Capi.
L'objectif de ma visite aujourd'hui ici, c'est de venir rencontrer tous les partenaires pour essayer de mieux comprendre la situation. Et donc depuis hier, je suis sur le terrain, j'étais à Beni, j'étais à Biakato, aujourd'hui je suis à Bunia. La semaine prochaine, je vais à Butembo, je vais à Mambasa, je crois que c'est là où l'épidémie est localisée. Et en fonction de ça, proposer un peu des stratégies avec nos différents partenaires et surtout avec le gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de voir comment ensemble on peut arriver à définitivement enrayer cette maladie.
Vous sollicitez la collaboration de la population qui manifeste la résistance, surtout en territoire de Mambasa. Quelles sont les stratégies mises en place face à ces défis?
La stratégie, c'est vraiment parler avec les populations pour leur expliquer qu'aujourd'hui, contrairement à avant, Ebola est une maladie où il y a beaucoup de gens qui l'ont attrapé, qui sont guéris. Donc, il ne faut pas dire, vous avez Ebola, vous allez mourir. Ça, c'est un. Deux, encore beaucoup plus important, c'est qu'il y a de la prévention à faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. Comme on vous dit, nettoyez-vous les mains, ne touchez pas à des corps qui sont suspects. Il y a beaucoup d'instructions ou de messages qui viennent des techniciens de la réponse. Et encore, le plus important aujourd'hui, il y a un vaccin. Et on peut se vacciner comme on se vaccine contre toute autre sorte de maladie.
Parmi les causes des résistances en territoire de Mambasa, la population fustige le fait que l'équipe des ripostes s'est fait accompagner par les forces de l'ordre. N'est-ce pas une faiblesse dans la stratégie de lutte contre Ebola dans la zone?
J'aurais bien voulu avoir le temps et vous démontrer un peu comment l'aspect militaire peut avoir une implication sur la réponse. D'abord, il ne faut pas militariser la réponse. C'est ce qu'on a toujours conseillé. Si vous avez regardé, il y a quelques années, il y a eu Ebola en Afrique de l'Ouest, notamment Sierra Leone, Liberia et la Guinée. Il n'y a jamais eu, en Guinée c'était vraiment le cas le plus sérieux, il n'y a jamais eu une intervention militaire en Guinée. Et pourtant, on y est arrivé. Parce que quand les militaires arrivent, les populations ont peur. Et quand les populations ont peur, elles vont fuir. Et s'il y a des malades parmi eux, ça va se transmettre sans qu'on le sache. Donc, même si on voit des forces à côté, ce sont des forces pour essayer de rendre l'ordre pendant qu'il y a des vaccins, etc., pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais arriver avec des militaires pour forcer des populations à se vacciner ou à se faire dépister, c'est pas la stratégie.
Vous êtes sans ignorer qu'il y a la présence des groupes armés qui s'attaquent souvent à l'équipe des ripostes dans cette zone. Comment pensez-vous remédier à ces défis?
Oui, justement, le cas du Congo est un cas extrêmement différent parce qu'on est en train d'opérer pour essayer de résoudre Ebola, mais dans un contexte où il y a un conflit, dans un contexte où il y a des groupes armés, dans un contexte où il y a les forces internationales. C'est ça qui complique la chose. Et cette zone, on sait qu'il y a beaucoup de groupes armés. Bon, quand bien même les militaires vont faire leur travail dans le cadre de lutte contre les bandes armées, mais il faut créer les conditions pour que les responsables de la réponse Ebola puissent faire leur travail de façon très correcte et sans pression.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info, retrouvé sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.